Père Philippe, 20 mars 84, Saint-Joseph.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal.
Au nom de l'Esprit Saint, Père du Pauvre, diminue notre cœur et notre intelligence pour nous conduire à la vérité du entier. Notre Dame, très sainte.
Priez-vous, priez-vous.
Pourriez-vous préciser la différence entre autonomie et individuation ? Il semble que le problème de l'autonomie puisse être abordé en philosophie du vivant et que celui de l'individuation le soit qu'en philosophie première. Pourquoi le philosophe ne peut affirmer l'existence de l'âme dès la conception ? En effet, l'âme est à la fois source de vie et d'être. Comment alors pourrait-on exister ? Comment alors pourrait exister l'être humain sans que la source soit présente ? Alors d'abord, le problème de l'individuation et de l'autonomie. L'autonomie, c'est une qualité d'un principe. Un principe est source d'autonomie. Toujours. L'autonomie, elle est multiple. Vous parlez de l'autonomie de la personne humaine. Vous parlez de l'autonomie d'une cité. Vous parlez de l'autonomie de la substance. Je crois qu'il y a autonomie dès qu'on est en face d'un principe. Tout principe a une certaine autonomie. La qualité d'un principe, parce qu'il est premier, tout simplement. C'est quand vous êtes second, vous n'êtes pas autonome. Et vous êtes relatif. Vous suivez l'agneau partout où il va. Bon, c'est d'être relatif. C'est d'accepter de ne plus avoir d'autonomie en premier lieu. Alors que l'autonomie, c'est justement le fait de ce qui est premier. Un principe premier a une autonomie. Les autres suivent par derrière. Et c'est ça le propre, justement, de l'autonomie, c'est d'être premier. Le principe est autonome. Et il est source d'autonomie, dans la mesure même où il est principe. Il est source d'autonomie. L'individuation, c'est un problème très particulier. C'est le lien entre le principe et le monde physique. C'est beaucoup plus particulier comme problème, l'individuation. L'autonomie est un problème beaucoup plus général. Vous le trouverez partout, l'autonomie. Tandis qu'au contraire, le point de vue du principe, le point de vue de l'individuation, ça caractérise un problème particulier, le pose de la substance. Alors, vous voyez, c'est le passage du principe au monde physique. À la composition du monde physique. C'est une substance composée qui est individuelle. Et une substance séparée, elle a son autonomie. Elle est individuée. On transpose le mot d'individuation pour les substances séparées. Est-ce que c'est tout à fait juste, ça ? Est-ce que je dis que Dieu est individué ? Chercher le problème de l'individuation en Dieu. Chercher le problème de l'autonomie en Dieu. Là, vous voyez tout de suite. Vous n'avez jamais posé Dieu d'individu. Chaque personne divine sont individuées. Ça ne s'oppose pas dans la très sainte Trinité. Tandis qu'on pose le problème de l'autonomie en Dieu. Et l'autonomie en Dieu revient à sa simplicité. C'est parce que Dieu est souverainement simple, tout à fait simple, qu'il est parfaitement autonome. Et vous ne direz pas, c'est parce qu'il est tout à fait simple qu'il est parfaitement individué. Non. Il est au-delà du problème de l'individuation. L'individuation, c'est propre au monde physique. L'autonomie est beaucoup plus vaste. Alors, voyez, c'est juste l'inverse de ce qui avait été dit. N'est-ce pas ? C'est que l'autonomie se pose au niveau du vivant, mais l'autonomie se pose à tous les niveaux. Dès qu'il y a un principe, il y a quelque chose de l'autonomie qui se pose. Source d'autonomie. Le principe est source d'autonomie. Alors, il y a des principes à tous les niveaux. Tandis qu'au contraire, l'individuation, c'est très vrai, je ne peux la préciser qu'en philosophie première. Je précise en philosophie première, après avoir découvert ce que c'est que la substance, je me pose le problème du lien entre la substance et le monde physique. Du lien entre la substance et la nature. Au fond, c'est le lien entre la nature et la substance. Je ne pose pas le problème de l'individuation au niveau propre de la nature. Il n'y a pas de problème de l'individuation au niveau de la nature. Curieux. Pourquoi ? Ça, c'est peut-être un problème qui vous éclairerait beaucoup. De se poser la question, pourquoi il n'y a pas de problème d'individuation au niveau de la nature ? Au niveau de la nature, vous divisez tout de suite nature-forme, nature-matière. Et vous avez tout de suite le composé. Ben, vous avez le composé, donc pas de problème, il est composé. Et le composé est individué. Donc, du fait même que la nature-forme fait appel à la nature-matière, il n'y a pas besoin de problème de l'individuation, il y a le problème de la composition. Et le problème de la composition implique le problème de l'individuation. Tandis qu'au contraire, quand je suis au niveau de l'être, ce n'est plus le problème de la nature forme et de la nature matière, puisque le problème de l'être est au-delà de la matière. Il faut donc réintégrer la matière en métaphysique. Comment je réintègre la matière en métaphysique ? C'est par la porte du pos, du comment. Ça, c'est très intéressant à voir et très important à saisir. Je l'aurais fait après, mais je le fais tout de suite, ça n'a pas d'importance. Mais enfin, normalement, je l'aurais fait après. Je me serais posé la question, point de vue critique, pourquoi le problème de l'individuation se pose au niveau de la substance et pas au niveau de la nature. Parce que, donc, au niveau physis, la composition fait partie essentielle de l'être physique. Il n'y a pas aucun être physique qui n'est pas composé. Et du fait même qu'il est composé, il a sa propre composition qui fait partie de son devenir. Son être est dans son devenir. Et il n'y a pas de problème d'individuation au niveau du devenir. Très joli ça, du reste. C'est très important de comprendre ça. Donc pas de problème d'individuation au niveau de la physique, de la physique. Pas de problème d'individuation au niveau de l'âme et du corps. Je suis un composé, et mon âme informe mon corps, et du fait même que mon âme informe mon corps, je suis un individu, je suis un être composé, c'est tout. Tandis que, quand je suis en métaphysique, le problème de l'usina, donc le problème de la substance, me met en face d'un principe du corps, selon la forme de ce qui est. Vous arriverez à retenir et à le comprendre. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de le retenir. Il faut le comprendre. C'est un principe selon la forme de ce qui est. La substance comme telle n'est pas liée à la matière. Elle est au niveau de l'être, de ce qui est. Elle n'est pas liée au devenir, elle est au-delà du devenir. Elle est tout de suite liée à l'être, dans l'ordre de la détermination, selon la forme, dans l'ordre de la détermination. Je me pose la question ensuite, comment cette substance existe-t-elle dans le monde physique ? Puisque je suis parti du monde physique, j'ai saisi la substance, je reviens sur le monde physique. Je reviens à moi-même, qui est un être physique, qui est un être complexe. Et je me pose la question de voir comment ce principe, cette cause, qui est la substance, se trouve dans le monde physique. Comment elle se trouve ? Individuée dans le monde physique. Quel est le point de départ de l'individuation ? Et par là, vous voyez, je vois comment le problème de la matière est réintroduit dans le problème de l'être. La matière comme telle n'est pas un principe d'être. C'est ça qu'il faut bien saisir. Vous savez bien, il n'y en a que deux qui ont dit que la matière était un principe d'être. Averroès et Lénine. Il ne faut jamais l'oublier. Il faut les mettre ensemble. Averroès et Lénine. Tous les deux ont dit que la matière est un principe propre de ce qui est. Un principe propre de la matière. Vous comprenez, si la matière est un principe propre de la matière, vous ne pouvez plus parler de l'esprit. Vous ne pouvez plus parler d'une substance séparée. Vous avez le matérialisme, au point de vue philosophique. L'être est matière. Si l'être est matière, vous ne pouvez plus saisir autre chose que le monde physique. Et vous ne pouvez plus saisir ce qu'est véritablement l'être, parce que vous le saisissez toujours dans le devenir. Et l'union des deux est inséparable. Donc, il y en a deux seulement. Il faut bien saisir ça, ça c'est capital. Si on n'a pas saisi, on reste un esprit matérialiste. La métaphysique est faite pour que vous soyez intelligent, n'est-ce pas ? Et donc, que vous arriviez à dépasser l'esprit matérialiste, parce que l'esprit matérialiste, c'est pas précisément intelligent. Ça manque d'intelligence. Ça manque de pénétration. Ça manque de vigueur de l'intelligence. Alors vous restez au niveau du devenir. Mais des quantités restent au niveau du devenir, vous savez. C'est des quantités d'intelligence. Et vous le voyez tout de suite, si vous restez au niveau du devenir, ou pas au niveau de et si vous dépassez, et vous dépassez l'être. La distinction, ce qui est vu. Je répète des choses que certains connaissent déjà, mais qu'il faut tout le temps reprendre. Ce qui est vu se divise en physis, en nature, forme, et en nature, matière. Donc, au niveau de ce qui est vu, c'est-à-dire le devenir physique, pour parler tout à fait de façon propre, au niveau du devenir physique, donc toujours ce que j'expérimente, tout ce que j'expérimente avec le devenir physique, toutes mes expériences sont liées au monde physique et sont liées au devenir physique, toutes. Je suis conditionné par le monde physique. Quand j'essaie d'analyser ce devenir physique, je dis qu'il y a deux principes, la nature forme et la nature matière. Et donc, la nature matière est un co-principe du devenir physique. Mais un principe propre. La matière fait partie essentielle du monde physique et du devenir physique. Quand je m'élève jusqu'au niveau de l'être, qui n'est pas commode. Je dépasse mon conditionnement, parce que tout mon conditionnement est lié au monde physique. Et j'essaie de saisir quelque chose qui est propre à l'intelligence. Ma sensibilité ne fait pas la distinction entre devenir et être. Mon imagination ne fait pas la distinction entre devenir et être. Au niveau de mon imagination, au niveau de ma sensibilité, je suis dans le devenir. Je suis dans la complexité du devenir physique. Seule l'intelligence, une intelligence séparée, c'est-à-dire séparée, vous comprenez bien, elle ne se balade pas toute seule, hein, une intelligence séparée, c'est-à-dire une intelligence qui se replie sur elle-même pour avoir justement son autonomie. L'intelligence est capable d'être liée au sens Et l'intelligence est capable de se replier sur elle-même pour découvrir ce qu'il y a de propre à l'intelligence. Et quand l'intelligence se replie sur elle-même, cette attitude réflexive, cette attitude de l'intelligence qui essaie de saisir ce qui caractérise la vie de l'intelligence. Quand l'intelligence se replie sur elle-même, l'intelligence se pose la question de l'être. Pas autrement. C'est très extraordinaire. Oui, c'est pour ça que le jugement d'existence est au-delà de l'expérience. Le jugement d'existence saisit bien. C'est l'intelligence qui saisit ça. C'est l'intelligence dans sa pureté d'intelligence. Elle se pose la question, qu'est-ce que c'est que l'être ? Bon, et quand je me pose cette question, donc j'entre en philosophie première, je découvre, première intuition, l'exia. Je découvre la substance comme principe propre. Principe propre. Ajouter principe propre. Selon la forme de ce qui est. Cause propre, selon la forme de ce qui est. Voilà ce que c'est que l'exia. Voilà ce que c'est que la substance. Et quand je saisis ça, je vois tout de suite, immédiatement, que la matière n'est pas un principe propre de ce qui est. Autrement dit, si vous voulez, l'interrogation en quoi est l'être ? Posez-vous la question sérieusement. En quoi est l'être ? Puisque c'est l'interrogation qu'on doit se poser. Hein. Qu'est-ce que c'est que l'être et en quoi est l'être ? Alors, est-ce que l'être, c'est l'argile que j'ai dans ma main ? En quoi est l'être ? Est-ce que l'être, c'est une chaîne ? C'est la matière ? C'est le bois ? C'est la glaise ? En quoi est l'être ? Terre rouge. En quoi est l'être ? Bien, quand vous vous posez sérieusement la question « En quoi est l'être ?», vous voyez que cette interrogation n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. En quoi est une maison. En quoi est une statue ? En quoi est l'être humain ? Pas ça, ça a un sens. Mais en quoi est l'être ? Pas de sens. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de principe propre au niveau de la matière, c'est-à-dire selon la matière, de ce qui est. La matière n'est pas un principe propre de ce qui est. C'est très très important de saisir ça. C'est même capital. Et peut-être pour nous, vous voyez, ce serait la première chose qu'on devrait faire en matière. Ça nous aiderait peut-être beaucoup. Parce que quand on est plongé dans un milieu matérialiste, il faut se purifier de ce matérialisme. Alors, il y a deux manières de s'en purifier. Par la foi, je ne suis pas un matérialiste parce que je crois que j'ai une âme spirituelle en moi qui est une matérialiste. Bon, très très bien. Je crois ça volontairement parce que je veux être chrétien. Alors à ce moment-là, c'est une attitude volontaire. Très bien. C'est très beau. Hein. Aucun mépris là-dessus. C'est très très beau d'être au-delà de la matière parce que je suis chrétien. Le chrétien ne peut pas être un matérialiste. Impossible. La foi me demande d'être au-delà du monde matériel, puisque Dieu n'est pas matière. Donc, je ne peux pas, si je suis chrétien. Mais il y a une autre manière de dépasser le matérialisme, qui est d'une manière intelligente. Ça ne veut pas dire que l'autre n'est pas intelligent, hein, mais c'est d'une manière intelligente, c'est pas dialectiquement, mais une matière qui est par l'intelligence. Une manière qui est par l'intelligence. L'un, c'est par le cœur. Dieu a converti mon cœur et a fait de moi un être spirituel. Toute conversion de marxiste et de matérialiste se fait comme cela. Dieu a converti mon cœur et m'a fait comprendre qu'il y avait autre chose que le monde matériel. Et puis, il me laisse le soin d'être intelligent et de convertir mon intelligence. Et convertir mon intelligence, c'est de comprendre qu'il n'y a pas de cause propre de l'être, de ce qui est, au niveau de la matière. Donc la matière n'est pas un principe propre de ce qui est. Les deux seuls, hein, en philosophie, ont affirmé que la matière est une cause propre de ce qui est, c'est Averroès et les nuits. Je prends les deux seuls, les deux grands. Les deux grands. C'est important de comprendre ça dans les nuits. Et c'est important de comprendre ça dans un Averroès. De comprendre qu'il y a ça. Il y a ces dieux. Alors la conclusion immédiate, c'est ce que dit Lénine, puisque la matière est cause propre de ce qui est, il ne peut pas y avoir un être séparé de la matière. C'est impossible. Un être séparé de la matière n'existe pas, puisque la matière est cause propre de ce qui est. C'est important de saisir ça. Alors, vous voyez que la découverte de Lucia me permet d'affirmer immédiatement, comme conclusion, que la matière ne peut pas être cause propre de ce qui est. Aristote l'avait déjà dit, mais de façon un peu cachée. Si Aristote était en face de Marx, il l'aurait dit avec violence, hein, et avec une force étonnante, en montrant que affirmer que la matière est un principe propre de ce qui est, eh bien, c'est annihiler l'intelligence. C'est de tout ramener au devenir physique. C'est de tout ramener à cette distinction nature-forme, nature-matière. Alors, comprenez bien, certains philosophes spirituels disent que la distinction nature-forme et nature-matière, c'est la grande distinction de la philosophie d'Aristote. C'est la grande distinction de la philosophie de la nature. Mais ce n'est pas la grande distinction de la philosophie d'Aristote, parce qu'Aristote reconnaît qu'au-delà de la philosophie de la nature, il y a la philosophie première. Et dès que je découvre la philosophie première, je découvre que la distinction nature-forme et nature-matière est une distinction très importante, mais au niveau de ce qui devient, au niveau du devenir physique. Dès que je me place au-delà du devenir physique, alors je découvre autre chose. Et des gens aussi intelligents que Gilson, c'est quand même important de se le rappeler, parce que comme on peut lire du Gilson, c'est bon de lire du Gilson. Mais des gens aussi intelligents que Gilson n'ont pas compris ça. Et si on ne comprend pas ça, on ne peut pas répondre au marxisme. C'est très très curieux ça. On a un fil à la patte. Alors on dit, la foi seule me permet d'affirmer un monde spirituel. Et à ce moment-là, notre intelligence ne se libère pas. Il n'y a plus de jugement d'existence. Parce que seule l'intelligence séparée peut dépasser l'expérience en montrant ce qui est à la racine de toute expérience, le jugement d'existence, la condition sine qua non. Ce qui est à la racine de toute expérience, la méta-expérience du jugement d'existence. Si vous restez uniquement à ce niveau-là, vous pouvez pas. Parce que c'est le devenir. C'est la réalité physique que vous constatez. Ce n'est pas l'être. Oui, c'est très très important de dire ça. Ça fait comprendre combien c'est difficile dans notre monde d'aujourd'hui d'entrer dans la philosophie. C'est une chose très difficile. Parce que on est plongé ou dans un monde matérialiste ou dans un monde hégélien, ce qui est la même chose. Alors, si on est plongé dans un monde hégélien ou un monde matérialiste, on reste dans le devenir. Hegel, le devenir tout court et le matérialisme, le devenir physique. Hein? Ça, c'est Marx et le devenir tout court, c'est Hegel. Mais dans le devenir, vous avez matière et forme. La distinction fondamentale, c'est matière et forme. Ça ne peut pas être autre chose. Tandis que dès que vous êtes au niveau de l'être, la distinction fondamentale, c'est la substance et la qualité. Voilà. Vous distinguez substance et qualité. La qualité, c'est second. La qualité n'a pas d'autonomie dans l'ordre de l'être. La substance a une autonomie dans l'ordre de l'être. Elle est principe. Elle est première. Et vous distinguez tout de suite substance et qualité. Ou substance et quantité. Mais c'est d'abord substance et qualité. C'est très important de comprendre cela. On dit habituellement substance et accident. Mais je concrétise en disant substance et qualité, c'est mieux. On distingue ça tout de suite. Cette distinction est au-delà de la distinction physis, nature, forme, nature, matière. Elle est au-delà, parce qu'elle atteint ce qui est. Au-delà du devenir, elle atteint ce qui est. Et en atteignant ce qui est, elle essaie de comprendre qu'est-ce que c'est que l'être. Et elle découvre la substance. Alors à ce moment-là, vous comprenez comment, au niveau proprement de la philosophie première, en découvrant la substance, je découvre l'au-delà de la matière. Une manière pour vous présenter ce que c'est que la substance. C'est pour ça que c'est intéressant. C'est l'au-delà de la matière. C'est pas l'au-delà de la matière au niveau spirituel, c'est l'au-delà de la matière au niveau être. Parce que pour nous, l'au-delà de la matière, c'est tout de suite le spirituel. Mais non, c'est pas le spirituel, c'est pas ça qui est premièrement au-delà de la matière. Ce qui est au-delà de la matière, c'est l'être, c'est ce qui est. Ça, c'est important. Parce qu'il faut tout de suite, autrement, vous platonisez. L'au-delà de la matière, c'est le spirituel. Ça, c'est l'au-delà de la matière, c'est ce qui est. Et ce qui est, vous le saisissez par nous y a. Alors vous comprenez que tout de suite le problème, ayant découvert ce que c'est que nous y a, du moins j'espère que vous l'avez découvert, hein, ayant découvert ce que c'est que nous y a, comme principe propre selon la forme de ce qui est, vous vous posez la question, mais comment la substance existe-t-elle dans le monde physique? C'est le comment de la substance dans le monde physique. Autrement dit, comment la substance va réintégrer la matière et comment la matière va être réintégrée dans la philosophie première. C'est très beau, du reste, comme problème. C'est un problème étonnant. Et c'est le problème de la divination. Vous voyez, il y avait deux manières à faire en disant la substance est au-delà de la matière. Donc, la métaphysique ne regarde que les êtres spirituels. C'est le néoplatonisme. La métaphysique ne regarde que les êtres spirituels, puisqu'elle n'a rien à faire avec la matière. La matière, c'est le monde physique, et seul le physicien, seule la philosophie de la nature, seule la philosophie du vivant peut étudier la matière. Pas du tout. Je n'ai pas le droit de dire ça. La matière intéresse le métaphysicien. La matière intéresse la philosophie première. Autrement, je ferai une séparation et je dirais je m'intéresse aux êtres séparés, aux martiens. Je m'intéresse aux êtres séparés. C'est le domaine de la métaphysique, c'est le domaine des êtres séparés de la matière. La matière, je la laisse au monde, à la philosophie de la nature, je ne m'intéresse pas. Dire ça, vous voyez, c'est supprimer la dimension de l'être. Et c'est prendre ce que Descartes a dit. Vous savez bien, Descartes a dit ça. Descartes a dit, nous regardons les substances pensantes et les substances quantifiées, matérielles. Donc Descartes sépare deux domaines, le domaine de la recherche des substances pensantes, le cogito, et des substances physiques. Les substances corporelles. Seule la métaphysique regarde les substances séparées. C'est pas vrai. La métaphysique ne regarde pas les substances séparées comme le seul domaine qu'elle regarde. Elle regarde l'être. Et l'être va tout de suite se réaliser dans les substances qui assument la matière, donc dans les substances individuées, dans des substances composées, c'est-à-dire des substances individuées. Et dans des substances séparées. Et la métaphysique regarde les deux. Elle est au-delà de cette distinction. Parce qu'elle atteint ce qui est. Vous voyez comment ? C'est repris d'une autre manière que je vous ai dit jusque maintenant, parce que c'est important de secouer ça dans tous les sens, hein, pour essayer d'entrer dans ce problème particulier qui est le problème de l'individuation. C'est un problème très important, hein. C'est pas du tout un petit problème, c'est un problème très intéressant. C'est de voir comment la matière est réintégrée en philosophie première. Et alors, elle est réintégrée par le point de vue du comment. Très curieux, elle est réduite à ça, vous voyez, au niveau de la philosophie première. La matière, c'est le problème du comment. Parce qu'elle n'est pas regardée comme un principe. Elle n'est pas un principe propre de ce qui est. Donc, elle est immédiatement. Alors, vous voyez, c'est ça qui serait intéressant à voir, c'est que je distingue substance, qualité, je distingue substance et matière. C'est pas la même chose. Alors, ce serait intéressant de voir la distinction entre substance et qualité, et la distinction entre substance et matière. La distinction entre substance et qualité, c'est une distinction qui se fait directement à partir de la substance. La distinction qui se fait entre substance et matière, il faut comprendre le problème de la divination. La substance est principe, la matière n'est pas un principe propre de l'être. C'est le comment, c'est le pourquoi. J'espère que vous saisissez ça. Ça, c'est important à saisir. C'est important parce que il s'agit d'être intelligent vis-à-vis du monde matérialiste. C'est pas suffisant d'être croyant en face du monde matérialiste. En face du monde matérialiste, il faut comprendre que l'intelligence ne peut pas accepter cette philosophie matérialiste. Cette dialectique matérialiste, on ne peut pas l'accepter. Parce que ce n'est pas pousser jusqu'au bout les exigences de l'intelligence, d'une intelligence qui a son autonomie. Vous voyez, c'est refuser l'autonomie de l'intelligence. Ce n'est pas étonnant, du reste, au fond. Le matérialiste, c'est celui qui refuse l'autonomie de l'intelligence. Et qu'il considère que n'est intelligent que celui qui marche à quatre pattes. C'est-à-dire une intelligence liée au sens. Une intelligence qui ne se redresse pas sur elle-même et qui acquiert cette espèce d'autonomie pour saisir au-delà du devenir ce qui est. Donc, j'espère que là, vous comprenez. Alors, autre problème, dernier problème. Alors ça, c'est le problème de l'individuation qu'on avait touché l'autre jour. Pourquoi le philosophe ne peut pas affirmer l'existence de l'âme dès la conception? En effet, l'âme est à la fois et à la fois source de vie et d'être. Comment pourrions-nous exister? Comment pourrait exister l'être humain sans que la source soit présente? C'est très vrai que ce problème se pose de cette manière. Comment se fait-il que saint Thomas, sachant bien ce que c'est que la métaphysique, dit que l'âme n'apparaît sans doute qu'au sixième mois? Et ceci en vertu, je vous l'ai déjà dit, de tout ce que la croyance du Moyen-Âge et des pères de l'Église, que Jean-Baptiste a été sanctifié dès le sein de sa mère au sixième mois. S'il a été sanctifié, ça prouve qu'il y a une âme. Le corps n'est pas sanctifié. Donc c'est au sixième mois que l'âme apparaît. C'est très très joli comme raisonnement. Hein. C'est très très joli. C'est un raisonnement de théologien qui s'appuie sur l'Écriture. Et qui dit qu'à partir de là. Alors, vous voyez, c'est un raisonnement de théologien. De théologie scientifique. Et donc, qui montre que l'âme peut très bien apparaître qu'au sixième mois. Pourquoi l'âme peut très bien apparaître qu'au sixième mois? C'est parce que la génération humaine peut se servir d'instruments. À la différence de la création. Et donc, il peut se faire qu'il y ait comme une virtus instrumentale, une vertu instrumentale, venant des sources mêmes de la procréation, des parents, le père et la mère. Et que cette vertu instrumentale suffit à expliquer le premier moment de la disposition. Et ça s'explique de cette manière-là. Et métaphysiquement, ce n'est pas contradictoire. Nous pouvons, nous, aller plus loin grâce aux découvertes biologiques modernes. Ce que saint Thomas n'avait pas. C'est très curieux. La science à la fois purifie les recherches philosophiques, et la science permet au comment du philosophe d'aller plus loin. La science ne nous donne jamais aucun nouveau principe métaphysique. La science ne nous donne jamais aucun nouveau principe philosophique. Mais la science nous permet de préciser le comment. Ça, c'est très intéressant. C'est là où on voit très bien qu'il ne faut jamais bouder la science, mais il faut la mettre là où elle peut nous apporter quelque chose. Et elle nous apporte quelque chose dans l'ordre du comment, pas dans l'ordre des principes. Pourquoi la science nous apporte quelque chose dans l'ordre du comment? Parce que la science biologique, la science physique, étudie les dispositions, le conditionnement de l'être d'un être en devenir. C'est ça qu'étudie la science. La science n'étudie pas les principes propres au niveau métaphysique. Les lois scientifiques sont toujours au niveau de la disposition. Donc, à chercher les lois biologiques, ce serait très intéressant. Prenez une loi biologique, essayez de l'analyser, vous verrez à quel niveau ça se situe. Ça ne se situe pas du tout au niveau de l'âme et du corps. Le biologiste ne peut pas parler de l'âme. Il ne peut parler que des manifestations du vivant et du conditionnement du vivant. Quand apparaît le vivant? Quand apparaît le vivant? Quand le vivant peut-il être mesuré? Donc c'est le conditionnement du vivant qu'il étudie. Ce n'est pas les principes propres du vivant. Et la psychologie, c'est la même chose. Ce n'est pas les principes propres, donc ce n'est pas la finalité. Il étudie uniquement le conditionnement. Alors le conditionnement, on essaie de le rattraper philosophiquement dans la recherche du comment. La recherche du comment, c'est toujours le conditionnement. Or, le premier conditionnement, c'est le problème de l'individuation. C'est le conditionnement fondamental de l'être humain et de l'être vivant, de la vache. Premier conditionnement de la vache, trouvez-vous, elle est un petit veau avant. Et puis, il y a eu aussi une conception. C'est bien évident. Et donc, elle a eu son conditionnement et son individuation. Les problèmes sont assez semblables, vous savez. Ils sont très différents parce que le conditionnement de l'un aboutit à telle chose et le conditionnement de l'autre aboutit à telle autre chose. Donc, du côté de la finalité, c'est tout à fait différent entre la vache et l'homme. Mais du côté du conditionnement, il y a beaucoup de similitudes. Hein. Beaucoup de similitudes, la vache ou le singe, si vous aimez mieux, parce que c'est encore un peu plus proche. Mais au fond, il y a beaucoup de ressemblances du côté du conditionnement. Alors, vous comprenez comment qu'un savant qui ne regarde que le conditionnement a une tendance d'éliminer la différence qui existe entre l'homme et l'animal. Parce qu'il ne peut pas saisir le moment de la rupture. Il ne saisit que le conditionnement. La rupture, philosophiquement, c'est l'âme spirituelle. Un animal n'a pas d'âme spirituelle. L'homme a une âme spirituelle. Et ça, la science ne peut pas me le dire. Alors, le philosophe doit être très attentif. Quand il s'agit de savoir à quel moment l'âme spirituelle a été créée par Dieu, c'est un problème du comment. L'existence de l'âme spirituelle, ça je l'affirme, hein, et on peut l'affirmer qu'à partir de la naissance, c'est sûr, absolument sûr. Mais à quel moment l'âme spirituelle est-elle créée? Ça c'est beaucoup plus difficile, je suis dans l'ordre du comment. Donc je marche à tâtons. Je peux uniquement l'affirmer en fonction de ce qui se manifeste. Et alors, ce qui se manifeste, est-ce que ça peut s'expliquer uniquement par l'âme spirituelle ou est-ce que ça peut s'expliquer par une virtus instrumentalis, comme parlaient saint Thomas et Aristote? Très, très difficile. Je peux, au point de vue théologique, grâce au mystère de l'Immaculée Conception, dire. Ça, c'est le théologien. Le philosophe est beaucoup plus prudent. Alors, le philosophe peut dire, étant donné qu'aujourd'hui, nous voyons le chiffre de l'individuation dès le premier moment de la conception, alors je dirais, tout porte à croire que Mais je suis dans l'ordre du comment. Je ne peux pas dire plus. Je ne peux pas l'affirmer, parce que ce n'est pas un principe, c'est de l'ordre du comment. Il faut être très, très strict là-dessus. Il ne faut pas faire de l'apologétique. Faire de l'apologétique, je crois que dans le monde d'aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus désastreux. C'est ce qu'il y a de plus désastreux. Parce que dans 10 ans, ce sera faux. Alors on confondra votre apologétique et votre philosophie. Alors soyons attentifs. Nous comprenons, vous voyez, au plan philosophique, il faut être très attentif à la différence de la découverte d'un principe. Un principe, c'est évident pour le philosophe. Et c'est là où on voit qu'il est philosophe ou pas philosophe. Un principe, c'est évident. Donc ça ne peut pas être autrement. Tandis que lorsque je suis dans l'ordre du comment, je n'ai jamais d'évidence. Je suis toujours à dire tel que je peux le considérer maintenant. Telles les découvertes que j'ai maintenant. On me montre, la science biologique a fait des progrès énormes au point de vue de ce que c'était l'aspect génétique. Je me sers de ces différentes conclusions du savant. Et je me dis, l'aspect génétique tel qu'il m'est donné actuellement me permet de préciser énormément ce comment. Et donc, comme ce comment premier, c'est le problème de l'individuation, ce qui me frappe énormément, c'est que ce que dit le biologiste dans ce premier moment de la conception, je suis en face du premier moment du comment et de l'individuation. Et je vois que ce que me dit le savant biologiste me permet de dire, mais oui, c'est vrai, je suis en présence d'un être autre. Mais cet être autre peut provenir dans son altérité ou de l'âme spirituelle ou de la virtus instrumentalis. Je ne peux pas l'affirmer. Je serais, vous voyez, tenté personnellement de dire que je crois, étant donné ce qu'on a précisé aujourd'hui, que ce premier moment d'individuation fait appel à l'âme spirituelle. Je ne peux pas l'affirmer de façon absolue. Je ne crois pas. Si vous trouvez un argument, vous me le direz. Je vous réfuterai cet argument en montrant que ce n'est pas absolu. Parce qu'on est dans l'ordre du comment. Et dans l'ordre du comment, on tâtonne. Surtout dans la phase embryonnaire. C'est une phase cachée, c'est une phase mystérieuse, c'est une phase qui, pour le philosophe, reste quelque chose. On le saisit jamais de façon absolue. On le saisit jamais de façon absolue parce que le vivant comme tel, il est souterrain au point de départ. Alors il est caché. Alors cette première phase, ce premier moment de l'individuation est très important à saisir parce que là je saisis vraiment que l'individuation comme telle, c'est mesurable. Toujours le comment est mesurable. Toujours le comment peut être décrit. Toujours le comment peut être objet de science. Alors, vous allez me dire, quelle différence de regard du philosophe et du savant? Le savant regarde dans le comment le mesurable. Et le philosophe regarde dans le comment ce qui est lié au principe. Et donc, ce n'est pas la même chose du tout. Ce sont deux comment différents. Et c'est pour ça que le philosophe doit parler de ce comment, parce qu'il est seul à pouvoir en parler. Parce qu'il en parle dans la lumière. Et en parlant dans la lumière du principe, il va plus loin que le savant. Mais c'est là où, d'une certaine manière, ils se rencontrent. Parce que tous les deux sont attentifs à l'ordre de la disposition. Mais le savant étudie la disposition pour elle-même, et le philosophe étudie la disposition en fonction du principe. Et donc là, il étudie quelque chose de plus. Il voit quelque chose de plus.